Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie pour un nouveau numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Actualité qui reste chargée en cette mi-décembre, moment consacré par nombre d'entre nous à la recherche de cadeaux pour nos proches, à moins de 2 semaines de Noël et des fêtes dites de fin d'année. Je rappelle en passant qu'un CD ou des places pour un joli concert constitue un très beau présent pour qui sait les apprécier à leur juste valeur. Et de jolis concerts, il va en être beaucoup question lors de cette émission, où j'ai le plaisir de retrouver mon ami Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Serge et moi, nous recevons un invité d'honneur, Jean-Jacques Cuben, directeur artistique du festival Déodat Sévrac, dont la programmation automnale se termine jeudi le 14 décembre, avec le concert que donne l'ensemble Tarentule à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il s'agit de la création d'une œuvre du compositeur Denis Boss, intitulée La Belle Folie. Nous allons vous en dire plus en seconde partie de numéro sur ce programme. Tout de suite, on se replonge dans l'actualité musicale récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue aussi à tous les deux, ravis de partager cette petite heure d'émission avec vous. Nous commençons ce retour arrière avec un concert que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer la semaine dernière, celui de l'Orchestre Symphonique de Francfort à la Halle au Grain le 1er décembre, à l'invitation du cycle des grands interprètes. La phalange allemande était dirigée par le français Alain Altinoglu, était aussi présent à leur côté le jeune pianiste canadien Yann Lisiecki. Serge Chauzy était présent dans la salle. Alors Serge, vos impressions?
Oui, alors remarquons que dans cette saison de grands interprètes, il y a de nombreux grands orchestres qui sont invités. Hein. Et cet orchestre qui s'intitule HR Symphony Orchestra Frankfurt. Alors HR, c'est Hesse Rundfunk, c'est-à-dire c'est l'orchestre de la radio de Hesse, du Land de Hesse. Et c'était la première fois qu'il venait à Toulouse. Alors dirigé par un Français, donc Alain Altinoglu, qui en fait occupe la fonction de directeur artistique de cet orchestre depuis la saison 2021-2022. Lui s'était déjà produit à Toulouse à la direction de l'orchestre du Capitole, mais là c'était donc la première fois qu'il venait avec cet orchestre, avec un programme à la fois traditionnel et original. Original par l'ouverture, puisque c'était une ouverture de Dvorak qui s'appelle « Dans la nature ». Et alors cette ouverture, en fait, c'est la première partie d'un triptyque que, pour ma part, j'ignorais, qui s'appelle « Nature, vie et amour ». Donc c'est la partie nature. Alors on retrouve quand même des thèmes bien connus de Dvorak, des danses abondantes qu'il a écrites. Et donc là, on a fait connaissance avec cet orchestre, qui est un orchestre brillant, et avec le chef qui le dirige avec une certaine vigueur et une énergie particulière. À la suite de cette ouverture, eh bien, c'était un concerto, lui, bien connu, puisque c'était le concerto pour piano et orchestre en la mineure de Grieg, l'un des grands concertos romantiques du répertoire. Il était donné donc en soliste par ce jeune 27 ans, ce jeune musicien élégant, et qui déploie dans ses 3 mouvements une énergie, là aussi, d'une intensité impressionnante, mais associée à un toucher cristallin, ce qui est particulier. Pas beaucoup de pédales, c'était très détaché, très fin, mais parfois percussif, avec un dialogue combatif dans le premier mouvement. Et il a particulièrement soigné la cadence finale hein, de cet Allegro molto moderato, qui était à la fois dense et virtuose. Ensuite, un bref adagio, il est très court l'adagio du concerto de Grieg. Et puis un final, alors une véritable explosion jubilatoire. Donc il a été très applaudi et donc il est revenu pour un bis. Alors un bis qui est l'opposé de ce concerto de Grieg, c'est le nocturne numéro 20, opus posthume de Frédéric Chopin. C'était un petit moment de rêve à la suite de ce concerto. Et puis la seconde partie de la soirée, elle était consacrée à un grand classique, les tableaux d'une exposition de Moussorgski dans l'orchestration de Maurice Ravel.
Comme c'est souvent le cas.
Comme c'est la plupart du temps le cas. Alors j'aimerais une fois entendre, parce qu'il existe d'autres orchestrations de cette pièce pour piano originellement.
Celle de Ravel fait tellement référence.
Mais oui,
je pense aussi qu'elle écrase un peu toutes les autres.
Effectivement, effectivement. Là, Alain Altinoglu a conféré un peu à chaque épisode ses caractéristiques caractéristiques propres. Donc c'était très contrasté avec l'agitation fébrile des Tuileries qu'il a dirigée très rapidement et à l'opposé là, cette grande méditation des catacombes. Donc c'était vraiment un beau moment pour lequel il faut féliciter le trompette solo parce que pour la trompette, c'est une tuile
c'est
incroyable.
Redoutable, oui.
Ouais, redoutable à la fois par la promenade, le thème de la promenade qui revient, mais aussi par le tableau Goldenberg Schmil, où il a vraiment un solo redoutable à accomplir. Donc ça a été vraiment une conclusion tout à fait éblouissante. Et avec un bis, ce qui n'est pas
souvent
le cas, avec un orchestre. Et là, Alain Altinoglu s'est adressé au public et a souhaité jouer un bis de musique vraiment française. Il s'agissait de la Sicilienne, extraite de la suite Péléas et Mélisande de Gabriel Fauré, qui s'est terminée par, là aussi, une contemplation, un rêve, avec le rôle important de la flûte dans cette Sicilienne.
On ne se lasse jamais d'écouter la Grande Porte de Kiev, extrait des tableaux d'une exposition de Modeste Moussorski dans l'orchestration de Maurice Ravel. En voici une version de l'Orchestre Symphonique de Francfort. Magnifique Grande Porte de Kiev, extrait des tableaux d'une exposition dans l'orchestration donc de Maurice Ravel et interprété ici par l'Orchestre Symphonique de Francfort. Je signale que le prochain concert des grands interprètes a lieu le 20 décembre à la Lohengrin bien sûr, où l'Insula Orchestra et le chœur Accentus de Laurence Equilbet vont interpréter le Messie de Handel. Autre grand concert très attendu, celui donné par l'Orchestre National du Capitole le samedi 2 décembre. C'était aussi à la Lograin et c'était un véritable événement puisqu'il s'agissait des retrouvailles de Tarmo Peltokoski, le futur directeur musical de l'orchestre, avec le public toulousain. Il y avait un autre invité de marque en plus aux côtés du jeune chef finlandais, le violoniste Renaud Capuçon. Inutile de dire que la halle était archi comble à cette occasion et que Serge Chauzet était bien sûr dans la salle. Est-ce que nous avons eu droit à la grande soirée de musique que tout le monde attendait, Serge?
Ah oui, absolument. Elle a d'ailleurs débuté par une allocution de Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, qui est venu pour présenter en quelque sorte le nouveau directeur musical de l'orchestre, qui ne l'est pas encore en titre, qui le sera dans la saison.
Dans le cœur de tous les...
Mais vraiment,
il l'est déjà.
Ah, il l'est déjà, et même dans le cœur de tous les musiciens,
oui,
je dois dire,
oui,
qu'il adore. Hein.
Oui.
Donc, alors, c'est le maire qui a un peu caractérisé ce que représentait cette association. Il a dit, c'est un coup de foudre musical qui s'est produit entre l'orchestre et le chef.
L'expression est juste. Hein,
ouais. Ben oui. Et c'était pendant le festival Maurice Ravel de Saint-Jean-de-Luz en 2022. N'oublions pas qu'il a 23 ans, ce qui est tout de même incroyable, et qu'on l'a vu quelques jours avant improviser au piano de manière ahurissante au cours d'une réception.
Et oui, parce que c'est aussi un excellent pianiste de formation.
Non, mais il y a des personnalités comme ça pour lesquelles on n'explique pas l'accumulation des talents. Alors là, on peut dire qu'à la suite de ce concert, même on le savait à l'avance, ce qui constitue un peu le talent de ce chef, c'est d'une part une grande personnalité dans sa direction et son charisme. Et puis il communique de manière très musicale avec les instrumentistes. J'ai assisté à des répétitions. Ça se passe très bien, les répétitions. Il obtient exactement ce qu'il veut. Il est très efficace. Et donc le style de sa direction, pour ma part, je dirais que c'est un équilibre entre la précision et la souplesse. C'est-à-dire qu'il sait faire vivre la musique. Et donc c'était le cas ce soir-là. Et le concert débutait avec tout de même une œuvre qui n'est pas très couramment donnée. C'est le concerto pour violon et orchestre d'Arnold Schoenberg. On entend plus souvent celui de Berg, à la mémoire d'un ange, mais celui de Schoenberg, on ne l'entend pas souvent. Il faut dire qu'il est considéré comme l'un des plus difficiles tout le répertoire, puisque Schoenberg lui-même dit qu'il était destiné à une nouvelle race de violonistes à six doigts. Voilà ce qu'a déclaré. Alors, Renaud Capuçon n'a pas six doigts, mais il a joué ça avec un grand talent, avec beaucoup de précision. Et alors, Dieu sait qu'il y a des choses incroyables à faire. Alors, des accords en double corde, quelquefois même en son harmonique et double corde, et puis des pizzicati de la main gauche. Enfin, ça pullule les grandes difficultés. Et donc, cette œuvre dodécaphonique, finalement, a été bien accueillie par le public, alors que c'est une œuvre tout de même assez difficile. Hein. Et donc, il y a eu un vrai dialogue entre le soliste et le tutti orchestral. Et ce qui était intéressant, c'est que jamais le tutti n'a dominé. Il a toujours laissé la parole, en quelque sorte, au violon. Donc, c'était vraiment intéressant, avec un épisode pastoral pour l'andante gracioso. Et donc, cette structure cyclique étonnante dans ce concerto, avec des thèmes qui reviennent. Alors, si on ne les a pas oubliés, on entend le retour de thème à la fin. Donc, Renaud Capuçon a été acclamé très longuement et il a joué un bis à la fois original et rare, que pour ma part je ne connaissais pas. C'est signé de Richard Strauss et ça s'appelle Daphné Étude. Alors, c'est d'après son opéra Daphné, évidemment. Il reprend les motifs de l'opéra. Ça, c'est une très belle pièce qui anticipait en quelque sorte la suite du programme.
C'est ce que j'allais dire, c'était bien aussi choisi pour faire le lien avec la suite.
Ah oui, et la suite c'était Also sprach Zarathustra, que l'on peut traduire par ainsi par là ou ainsi par les Zarathustra, suivant les choix. Et donc cette œuvre d'après Friedrich Nietzsche, vraiment le choix des tempi, les combinaisons de sonorités, les progressions dynamiques. Ce chef a un sens des crescendo vraiment impressionnant. Le tout début célébrissime de ce poème symphonique, mais donne le frisson. Hein. C'était impressionnant la manière dont il l'a dirigé. Du murmure aux explosions, et effectivement, jusqu'aux derniers accords qui se fondent dans le silence, avec un grand bravo qu'il faut adresser aux musiciens, hein, aussi bien de la trompette que le hautbois, la flûte, le cor, la clarinette, le basson. Donc c'était une ovation incroyable avant la fin du concert. Le concert n'était pas terminé avec ce poème symphonique. Il restait l'ouverture des maîtres chanteurs de Nuremberg, qu'il a dirigé avec maestria. Il adore Wagner.
Mais voilà ce que j'allais dire, de son cher Wagner. Alors là, vous pensez
bien
qu'il est vraiment dans son élément.
Oui, mais en plus, il a déclaré qu'il avait 11 ans quand il a demandé comme cadeau de Noël la partition intégrale de la tétralogie. Bon, pour un gamin de 11 ans, c'est tout de même incroyable.
Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Tout
exactement,
monde
bravo. Donc très beau, très grand concert qui a vraiment suscité une ovation triomphale.
En plus, quand elle est pleine, ça fait du bruit hein, quand les gens acclament.
Ah oui. Non, très bien. Vraiment un moment formidable.
Nous allons écouter le début d'Ainsi parlait Zarathoustra. Vous l'évoquiez, Serge Chauzy, hein, le début de ce magnifique poème symphonique de Richard Strauss, rendu célèbre entre autres par l'utilisation qu'en a fait Stanley Kubrick pour son film Dominion, l'Odyssée de l'espace. Le voici dans une version de l'Orchestre National du Capitole qui date d'il y a quelques années. Le fameux début d'Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss dans une version de l'Orchestre National du Capitole, enregistré il y a quelques années. L'Orchestre du Capitole était de nouveau en concert à la Halle aux Grains jeudi et vendredi dernier, les 7 et 8 décembre, pour une double soirée également très attendue, mais qui a connu bien des aléas avant d'avoir lieu, Serge.
Oh que oui. Alors, petit résumé. Initialement, c'était Tugan Sokiev qui devait diriger l'orchestre, et c'était la pianiste Maria João Pires qui devait jouer en soliste le 4e concerto de Beethoven. Alors, c'est tout d'abord la pianiste qui, pour des problèmes de santé, a dû arrêter toutes ses activités. Et donc, à l'époque, on avait demandé au pianiste Jean-Frédéric Neuburger de la remplacer, ce qu'il avait accepté un premier temps. Et puis ensuite, nouveau contretemps, également problème de santé, c'est Tugan Sokiev qui, cette fois, est contraint d'annuler sa venue.
Mais vraiment très peu de jours avant le
concert. Très peu de jours,
Maria João Pires, c'était bien avant, mais là, pour le remplacer, c'est compliqué. Hein.
Ah oui, oui. Alors, il a été remplacé par une étoile montante de la scène internationale, un jeune, relativement jeune, jeune quadragénaire, Elias Grandi, qui est venu, lui, effectivement. Mais finalement, Pires n'a pas été remplacé par Neuburger. Il a également déclaré forfait. Et c'est un jeune et talentueux pianiste japonais, Mao Fujita, qui est venu donc pour jouer la partie de soliste de ce concerto de Beethoven.
Et malgré tout ça, le programme a été maintenu en l'état. Parce que c'est ça vraiment qui est surprenant.
Oui. Exactement. Chapeau à l'administration de l'orchestre qui a su trouver les personnes adéquates pour assurer le même programme. Il faut dire que Mao Fujita, le jeune pianiste, a un beau palmarès puisqu'il a remporté le prix du concours international de piano Clara Askill, donc ce qui est quand même pas mal, et puis il a obtenu une médaille d'argent au concours Tchaïkovski de Moscou en 2019, c'était très bien. Et donc c'était lui qui ouvrait ce concert comme soliste de ce concerto, vraiment avec beaucoup de talent, avec une sorte de passion juvénile qui allait très bien, avec un toucher parfaitement transparent, là non plus pas trop de pédales, donc avec un orchestre qui là aussi était bien équilibré avec le volume sonore du piano, avec surtout cette tendance cante con moto de ce concerto, qui est vraiment peut-être la partie la plus originale, avec cette espèce de dialogue entre l'orchestre et le piano, dans lequel certains voient la plaidoirie d'Orphée réclamant le retour parmi les vivants de sa chère Eurydice. Passion et musicalité allaient de pair dans cette interprétation, et donc ça a eu beaucoup de succès. Vraiment des acclamations pour Mao Fujita. Et puis un bis original, un bis très court d'un compositeur japonais que pour ma part je ne connaissais pas.
Quand j'ai entendu, je me suis demandé ce que c'était.
Alors je ne connais pas le titre de la pièce. Elle est signée de Akio Yashiro, un compositeur qui est né en 1919 et mort en 1976. Donc plein 20e siècle.
Sans doute célèbre au Japon.
Voilà, j'imagine. Exactement. Mais... très, très cristallin, très beau, oui, très oui. Poétique. Et enfin, alors la dernière partie, là encore, numéro 4, mais cette fois, c'est la dernière symphonie de Brahms. Et là, le chef a dirigé ça avec une énergie résolument dramatique. Par moments, presque trop dramatique, puisqu'il y avait une telle tension pendant toute cette interprétation que ce que, pour ma part, j'ai un peu regretté, ça manquait un peu de détente. C'est bien quand en musique, la tension et la détente alternent un peu. Mais quoi qu'il en soit, la précision...
Ce sont des parties prises.
Bon, oui, mais direction. La précision du jeu instrumental était vraiment parfaite. Et donc là aussi, l'accueil que le public a réservé aux jeunes remplaçants, entre guillemets, l'accueil a été chaleureux. Et donc bravo pour avoir pu maintenir ce programme avec des musiciens quand même convoqués presque à la dernière minute. Hein.
Oui, concernant le chef, c'était vraiment cas. Oui. Et puis Mao Fujita aussi, puisque je ne sais pas pour quelle raison Jean-Frédéric Neuberger a finalement déclaré forfait également. Peut-être parce qu'il ne voulait pas jouer ce concerto si ce n'était pas Sokiev qui le dirigeait, c'est possible.
C'est possible.
Bon, effectivement, ils ont su trouver des remplaçants de qualité en très peu de temps. Il y avait donc deux soirées. Alors, j'étais le vendredi, vous le jeudi. Moi, en ce qui me concerne, c'était vraiment bien rempli.
Ah oui, moi aussi. Hein. Oui, le 7 aussi.
Deux soirées comme ça consécutives, c'est pas forcément évident avec le double forfait qu'il y a eu, parce que évidemment beaucoup de gens venaient pour voir Tugan Sokiev diriger et pour écouter Maria João Pires, d'autant plus que à son âge, avec les problèmes de santé qu'elle a, on n'est pas sûr de la revoir malheureusement. Une immense pianiste ça a été vraiment un très beau succès. Deux concerts, succès public, très acclamé aussi le vendredi, même façon. On va pouvoir entendre Mao Fujita dans du Beethoven, mais pas dans le quatrième concerto. Il joue ici le troisième mouvement Presto Agitato de la sonate numéro 14, plus connue sous le nom de Clair de Lune. Thank you. Le troisième mouvement, presto agitato de la sonate numéro 14, Clair de lune de Beethoven, interprété par Mao Fujita, un jeune pianiste qu'on devrait revoir rapidement à Toulouse, peut-être au festival Piano Jacobin, pourquoi pas. C'est la fin de cette première partie d'émission, une pause de quelques secondes, et on retrouve Serge Ozy en compagnie de notre invité d'honneur Jean-Jacques Cuben. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Serge Ozy et Jean-Jacques Cuben pour évoquer d'abord le dernier concert de l'édition 2023 du festival Déodat Sévrac avec le directeur artistique de la manifestation, vous-même Jean-Jacques Cuben. Ce concert a lieu ce jeudi, le 14 décembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines et il est donné par l'ensemble Tarentule. Nous allons y revenir. Je voudrais que vous nous rappeliez tout d'abord la formule du festival parce qu'elle est un peu particulière dans la mesure où elle se déroule en deux temps. Il y a un temps estival et un temps automnal dont les concerts ont lieu de surcroît dans des zones un peu différentes, même si tout se passe à chaque fois en Haute-Garonne.
Tout à fait. Le festival donc a deux périodes de programmation. Les estivales qui se font en Lauragais, d'un point de vue général. Alors bien sûr à Saint-Félix-Lauragais, puisque c'est le village natal de Déodat Sévrac, et qu'il y a encore la maison Déodat Sévrac qui est encore habitée par des descendants de Déodat Sévrac, notamment l'arrière-petite-fille. Donc ça c'est le lieu de patrimoine, on va dire. Et à partir de Saint-Félix, on rayonne un petit peu autour, notamment le Lauragais au doigt avec Saint-Papoul, par exemple, où il y a une très belle abbaye et où nous venons chaque année. Et puis nous échappons parfois, nous avons pu aller à Saint-Lizier, par exemple, alors qui est tout à fait éloigné, qui est l'Ariège. Nous sommes allés l'an passé à Pinsaguel, là nous sommes aux portes de Toulouse.
Oui.
Enfin bon, c'est fonction un petit peu.
Je pense que c'est un festival notamment dans des châteaux du Lauragais.
Voilà, alors ce qui est important, je crois que c'est les lieux de patrimoine aussi. Voilà. Hein. Déjà Saint-Félix a un très beau château, avec une très belle cour, très bonne acoustique, donc déjà c'est un plus important pour un festival. Pinsaguel également, il y a un joli château maintenant. Enfin, bon, différents lieux comme ça. Et l'abbaye de Saint-Papoul, qui est vraiment un bijou.
Oui, hein, oui.
Bon, là, vraiment. Donc, tout ça, c'est un ensemble, si vous voulez, qui est entre, au fond, un patrimoine architectural, un patrimoine musical autour de Déodat Sévrac. Ça, c'est la première partie du festival, donc sur ces estivales, en gros de juillet jusqu'à début septembre. Et puis, le retour alors ensuite à Toulouse, c'est-à-dire que finalement, le festival se décentralise à Toulouse, puisque c'est quand même à l'origine un festival qui a été créé en Lauragais par le petit-fils de Déodat Sévrac, Gilbert Belair, en 1989. Donc, décentralisation à Toulouse en novembre-décembre, avec une thématique quand même principalement autour de la culture occitane, et notamment des œuvres savantes autour de la culture occitane. Parce que finalement, cette culture occitane est surtout un peu, comment dire, connue, ou du moins... limité à de la musique traditionnelle, ou enfin ce genre de choses, alors qu'il existe un fond musical important, savant, à commencer évidemment par les troubadours.
Alors, c'était aussi en référence à l'œuvre et aux idées de Sévrac, qui lui était considéré, tort ou à raison, comme un compositeur un peu régionaliste, en tout cas qui était très attaché à son terroir.
Oui, le régionalisme, bon, c'est toute une époque aussi, hein. C'est l'époque de la fin du 19e et début du 20e siècle. Fort sentiment de au fond, de renaissance aussi régionale. Hein. Ce que Sévrac, au fond, déplorait, c'est que Paris avait une toute puissance artistique.
Bah oui, ce centralisme.
Bien qu'il y ait fait toutes ses études, d'ailleurs.
Mais enfin, oui, absolument.
Mais il pensait qu'au fond, on pouvait être artiste ailleurs qu'à Paris. Et ce qu'il reprochait souvent aux musiciens, aux artistes, c'est de faire de la musique pour Paris et par Paris, par l'intermédiaire de Paris. Donc, quelque part, il pensait qu'on pouvait aussi être artiste ailleurs qu'à Paris. Et donc, il l'a prouvé lui-même, après, ensuite, en partant de Paris, une fois ses études terminées. Mais en rattachant toujours, au fond, les œuvres qu'il avait créées à Paris, parce que pendant toutes ses études, qui ont duré fort longtemps, hein, de 1896 jusqu'à 1907, à la Scola Cantorum, mais il était joué constamment à Paris, dans les plus grandes salles, il était joué à Bruxelles également, à la Libre Esthétique, enfin, etc. Et tout ça fait qu'il est parti de Paris, mais ses œuvres, au fond, ont connu succès par Paris, quand même, il faut être honnête là. Hein. Et donc, cette idée de culture occitane est très chère à Sévrac. Pourquoi ? Parce qu'il estime que cette culture était méprisée, dans la mesure où c'était la culture du peuple, ouais. Et des paysans, on va dire même des paysans, ce qui était quand même quelque chose de très, très réducteur. Mais c'était la réalité, puisque au fond, à Saint-Félix-Lauragais, il y avait très peu de gens qui parlaient français, hein. Il faut être, être logique, à cette époque-là, tout le monde parlait occitan, ou du moins le comprenait. Alors, le milieu dans lequel vivait Sévrac, c'est-à-dire un milieu aristocratique, pratiquait le français, bien évidemment, on parlait français. Mais on comprenait très bien, alors on appelait ça le patois à l'époque, hein, l'occitan. Et surtout, Sévrac a toujours été attaché, au fond, à cette nature qui l'a entouré toute sa jeunesse. Et aussi aux personnes. C'est quelqu'un qui, au fond, s'intéresse aux hommes qui sont dans la nature, notamment les paysans. D'où cette idée qu'à un moment donné, il s'est intitulé « musicien paysan ». Parce que quelque part, il sentait qu'il avait ses racines dans ce pays du Lauragais. Et donc, la culture occidentale l'a beaucoup intéressé parce qu'il connaissait bien sûr les troubadours. C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Hein. Sévrac est quelqu'un qui lisait couramment le latin, le grec. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui avait fait des études très sérieuses à Sorèze.
Un grand érudit.
Voilà, grand érudit.
Effectivement, c'est un ancien élève de l'abbaye école
de Sorèze. Ah oui, tout à fait.
Il y a beaucoup d'élèves célèbres, mais
et
on trouve qu'il y avait
un enseignement très, très strict, mais quand même d'une grande qualité. Il faut le reconnaître. Et donc, à travers, au fond, toute cette filiation pour lui, si vous voulez, la culture occitane, c'était la fille du latin, du bas latin, et notamment, bon, la langue occitane, mais à l'époque, elle ne s'appelait pas la langue occitane, elle s'appelait la langue d'oc, et du oui, en fait, hein, avec le catalan. C'était les deux langues qui étaient nées du bas latin. Et évidemment, elle a connu cette culture occitane, une grande époque, au XIIe et XIIIe siècle, ça, il le savait, et il voulait qu'au fond, on reconnaisse cette qualité de culture savante, et pas uniquement de culture populaire. Bien que pour lui, culture populaire et culture savante ne faisaient que la culture ou la musique. Ils ne distinguaient pas l'un et l'autre. Ils pensaient que tout simplement, finalement, la musique savante se pouvait se nourrir de la musique traditionnelle. Et ils citaient les Espagnols, notamment Albéniz, les Russes, Bussorgskaya, etc., qui ne méprisaient pas leur culture traditionnelle.
Alors, il y a une autre chose dont il faut qu'on parle quand même, c'est que dans votre programmation, vous aimez croiser les domaines musicaux, parce que ça va vraiment de la musique classique, la musique très ancienne, baroque, vous parlez de celle des troubadours, mais à la musique d'aujourd'hui.
Oui, parce que je crois que, là je parle maintenant par rapport à la culture occitane, il est important de montrer que c'est une culture d'aujourd'hui.
Vivante.
Vivante. Et donc, comment le démontrer? Tout simplement en faisant des créations. Parce que c'est ça qui, au fond, montre que la culture est toujours là, est toujours en mouvement, etc. Et d'où l'importance que l'on donne, si vous voulez, dans cette période toulousaine, à des créations en langue occitane. Plutôt dans le domaine savant, puisque nous sommes au fond les seuls, hein, je dois dire, à le faire, parce qu'après, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à ce domaine-là.
Oui.
Et nous avions commencé d'ailleurs avec Daphnis et Alcimadur, mais il y a fort longtemps maintenant, en 95, avec d'ailleurs...
Les Passions de Montauban.
Déjà Les Passions, qui ne s'appelaient pas Les Passions.
L'orchestre baroque de Montauban.
Voilà. Et donc là, on avait fait donc une première mouture de cette Daphnis et Alcimadur, que l'on retrouve maintenant et qui connaît un grand succès, et c'est à mieux. On avait également programmé en 2002, je crois, Béatrice de Planisol, d'après René Lally, donc opéra de Jacques Charpentier, à la Halle au Grain avec l'orchestre du conservatoire dirigé par Marc Bleuze, après d'autres créations avec notamment une pièce de Bertrand Dubaudoux qui s'appelle Le Livre des Rituels, sur des poèmes d'Alain Sieur Garcia, un grand écrivain occitan. Spansus, c'est la dernière création que nous avions faite, c'est peut-être en 2012 ou 2013. C'était un compositeur qui s'appelle Sacha Zamler-Karart qui avait fait ça. Spansus, c'est un des textes, des premiers textes en langue vernaculaire, mais un texte religieux, puisque c'est la parabole des vierges folles et des vierges sages. Voilà. Et donc, ça, c'est une très belle création qui s'est faite à Saint-Pierre-des-Cuisines. Donc, il y a cette continuité, et également, évidemment, dans la période toulousaine aussi, des créations, alors plutôt dans un domaine de musique du monde ou de musique traditionnelle, dans laquelle la musique occitane prend sa place en tant que musique méditerranéenne.
On en arrive donc à ce dernier concert du Festival 2023, jeudi à Toulouse, à l'Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, avec l'ensemble Tarentule qui va créer La Belle Folie, une œuvre de Denis Boss. Alors c'est une célébration chantée d'amour, l'amour tel que l'ont inventé les troubadours au XIIe siècle. On va commencer avec le compositeur, Denis Boss. Qui est-il?
Alors Denis Boss est un compositeur né à Bordeaux, mais qui vit en Belgique. Et qui a donc fait pas mal de pièces, notamment également de la musique électroacoustique et de l'opéra. Il avait fait une pièce qui s'appelle « La lettre volée », sur un texte d'Edgar Poe.
Edgar Poe.
Donc je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, mais qui pratique un langage quand même assez savant, hein, il faut le reconnaître. Mais bon, ça fait partie de la création, c'est-à-dire qu'à un moment donné, du moment qu'on fait une création, on laisse le compositeur libre d'exercer sa propre parole et sa propre écriture aussi. Hein. Les troubadours sont à la base de la chose avec les textes, au fond. On y retrouve aussi cette trinité, on peut dire, poésie, chant et amour, puisque l'idée, c'est quand même la base de cette idée de l'amour des troubadours, c'est ça. Hein, c'est du chant, puisqu'on chantait, le troubadour chantait, mais il chantait sa propre poésie. Et ensuite, évidemment, le thème de l'amour était très important au niveau de l'amour courtois. Oui. Enfin, il y avait autre chose que ça dans la civilisation occitane hein, du 12e et 13e siècle. Mais en fait, c'est ce qu'on en a beaucoup souvent retenu. Donc, ce thème-là, au fond, a été utilisé par Denis Boss en faisant une sorte de parcours, comme ça, à travers différents six périodes.
Six tableaux, en fait.
On pourrait dire des mentions, oui, en fait, etc. Oui. Bon, avec un texte de troubadour bien particulier. Et évidemment, également après, parce qu'il n'y a pas que l'ensemble Tarentule. L'ensemble Tarentule, en fait, il y a quatre chanteurs. C'est la base, au fond, de l'œuvre. Mais après, il y a un accordéoniste de grand talent, qui est Pascal Comté. C'est la partie, on va dire, instrumentale. Et également, une vocaliste, c'est-à-dire une personne qui est une chanteuse, d'ailleurs, hein, qui s'appelle Laura Terreda, qui va à la fois expliquer un petit peu, faire les transitions entre les morceaux musicaux, avec notamment les vies des troubadours, c'est-à-dire remettre dans un contexte la pièce qui va être ensuite jouée.
Oui, que vivait le troubadour en question à l'époque
puisque
où il a écrit
ses textes. Puisque chaque fois dans les troubadours, vous avez toujours la vie, d'abord qui est racontée, en occitan évidemment, ça date de très longtemps, ces vies de troubadours, et ensuite il y a les œuvres, hein. En général ça fonctionne comme ça dans les recueils.
Alors il y a des poèmes, je vais citer quand même les auteurs, il y a Guillaume IX d'Aquitaine, Arnaud Daniel, la comtesse de Die. Il y a un troubadour anonyme.
Une troubadour.
C'est une troubadour, pardon.
Rigaud
de Barbezieux, Perret Vidal.
Toulousain.
Geoffrey Rodel, alors lui, il est aussi...
très connu, bien sûr.
Très
avec
connu.
La mort de loin.
Bernard de Ventadour, alors voilà encore un qui est très très connu. Et Rimbaud d'Orange, qui n'est pas Rimbaud de Charleville-Mézières, c'est pas le même. Bon, voilà, donc pour ceux qui connaissent vraiment cette période, ce sont que des grands. Hein.
Alors ce sont les grands, oui, les plus connus parmi les troubadours. Il y a énormément de troubadours. Hein.
Bien sûr.
Bon, ça c'est rien, mais vous avez le recueil qu'a fait un Espagnol qui s'appelle Riquer. C'est comme ça, hein, il doit y avoir 10 cm à peu près de
documentation.
De documentation. Non, je veux dire, bon, ce sont en effet les plus connus, avec au fond certains qui sont des grands seigneurs, comme Guillaume IX
d'Aquitaine,
qui est le grand-père, je crois, d'Aliénor, hein, donc un guerrier, hein, mais qui est un poète aussi, mais qui le dit d'ailleurs
à un moment donné. À l'époque, ce n'était pas compatible d'être à la fois un grand soldat.
Il parle de poésie en chevauchant, hein, il le dit dans un de ses poèmes. Mais il va combattre, évidemment, les Sarrasins de l'autre côté des Pyrénées. Et également, un grand seigneur, c'est Rimbaud d'Orange, pareil. Après, il y a des troubadours, disons, d'extraction plus modeste. Perret Vidal, qui est toulousain, lui, par contre, très connu également, parce que c'est quelqu'un qui a un franc-parler, qui s'est fait beaucoup d'ennemis, d'ailleurs, à son époque, mais qui a osé pas mal de choses. Arnaud Daniel, oui, lui, c'est aussi un bourgeois, mais c'est un style de souvent un peu plus... savant, donc on appelle ça le trouvoir close, c'est-à-dire fermé, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose de très recherché au niveau de la forme de la poésie. Et donc la comtesse de Die, alors pourquoi est-elle connue d'abord? Parce que c'est une des rares troubadourites, c'est-à-dire troubadour femme, entre guillemets, et qui emmène dans cette poésie des troubadours beaucoup de sensualité, d'érotisme même, hein, c'est quelque chose de très intéressant, qui mérite d'être connu. Il y a quelques poésies, il y en a très peu, hein, qui ont été conservées d'elle. Il y a une troubadourite anonyme, parce que, bon, tout simplement, c'est un très beau texte également de féminin, mais dans le sens de la sensualité et d'un ressenti beaucoup plus profond, finalement, souvent, que celui des hommes. Et tout ça, c'est un ensemble, finalement, qui donne une idée de ce que pouvait être cette poésie des troubadours, très variée, finalement, dans ses formes. Geoffrey Rudel, bien sûr, qu'il est hyper connu par le fameux Amour de loin.
Oui, oui.
Un opéra a été fait par Kaiser Sarriao. Nous avions créé, d'ailleurs, une petite pièce qui avait été faite sur l'Amour de loin, également, électroacoustique. Toujours de Kaiser Sarriao. Donc tous ces poèmes ont un point commun, l'amour. Mais la façon d'exprimer cet amour est différente suivant les poètes.
Voilà, ça sert. Le fil conducteur, évidemment, vous l'aurez compris, c'est l'amour. Alors il y a une chose intéressante, c'est que Denis Boss se présente lui-même, finalement, comme un troubadour contemporain.
Voilà, c'est-à-dire qu'il reprend cette idée, lui, ce qui l'intéressait toujours, cette alliance, ces trois poésies, chant et amour. Et il dit, au fond, cette œuvre, c'est une sorte de lettre.
Une lettre qu'il écrit au troubadour du XIIe siècle.
Donc c'est
à ses ancêtres, en quelque sorte.
C'est une réinterprétation, quelque part. Oui. En plus, c'est quelqu'un né à Bordeaux, mais qui a un peu perdu, enfin oublié, disons, cette dimension.
Il est passé par le conservatoire de Bordeaux, tout de même.
Oui, cette dimension occitane, on va dire, entre guillemets, mais qui la retrouve, finalement, à travers les troubadours. Oui. Et il dit que c'est quelque chose qui est inscrit en lui-même. Donc, je pense que c'est une sorte de dommage, mais en même temps, l'idée aussi que ce sont des racines, ces troubadours, mais que, évidemment, aujourd'hui, il faut en parler différemment, dans une autre modernité, on va dire.
Musicale, en tout cas. L'ensemble Tarentule, qui sont les musiciens qui composent
hein, Alors là, en l'occurrence, c'est un ensemble un peu à géométrie variable, hein, comme tous ces ensembles qui font de la musique, disons, souvent plutôt de la musique a cappella, hein, mais avec une caractéristique, c'est un ensemble qui s'intéresse beaucoup à la création contemporaine. Ils ont un travail très important sur la musique contemporaine. Ils sont d'ailleurs très connus sur ce domaine-là. Les fondateurs, c'est Xavier de Lignerolle qui est un ténor, Cécile Gallois qui est un alto. Alors l'un vient du Conservatoire de Paris, c'est donc Xavier de Lignerolle, et l'autre du Centre Musique Baroque de Versailles.
Versailles.
Voilà. Ensuite, bon, viennent s'adjoindre les sopranes. En l'occurrence, là, aujourd'hui, c'est quelqu'un que je connais bien.
C'est votre fille.
Ma fille. C'est-à-dire, bon, je dois vous dire que Xavier de Lignerolle est mon gendre, mais enfin, bon, c'est comme ça. Une basse qui est Frédéric Albou, mais il peut y avoir d'autres interprètes. C'est souvent un peu les œuvres qui sont...
les registres.
Qui sont composés hein, ou présentés. Donc c'est un ensemble qui peu à peu, quand même, c'est un ensemble maintenant qui a fêté ses 10 ans l'an passé,
et oui,
qui a déjà enregistré. Il avait enregistré notamment tout un ensemble du quatrième livre de Madrigaux de ce célèbre musicien qui avait tué son épouse.
Gesualdo.
Gesualdo, voilà.
Gesualdo. Ils ont enregistré un disque qui va sortir là, sur la musique de Svelink. Alors c'est un livre par contre sur des poèmes français, notamment de la Pléiade, hein, enfin de Ronsard, enfin, etc.
Alors Svelink, c'est plutôt la Renaissance, la fin de la Renaissance.
Nordique, voilà, ouais. On va dire. Enfin,
Hollandais,
je pense. Voilà, donc c'est un ensemble qui, je pense, est assez éclectique dans ses choix, mais qui a cette qualité, au fond, d'oser des choses. Parce que bon, parfois, et c'est un peu une caractéristique commune avec le festival, on se contente d'un certain confort.
Oui, bien sûr.
Hein, c'est
oui.
Plus simple de faire toujours la même chose.
Oui.
Et là, bon, alors, un parcours éclaté, ben, c'est toujours des risques pris, etc. Et je crois que le fait de faire une création importante, parce que ça dure quand même une heure et quart à peu près, création, donc, c'est oser quelque chose, hein, c'est prendre un risque. Alors, ça fait partie du jeu.
Clairement.
Sinon, on reste toujours dans
les... C'est très positif, ça. Oui.
Voilà. Comme il s'agit d'une création, évidemment, je n'ai pas d'extrait de La Belle Folie à vous proposer, mais nous allons tout de même pouvoir écouter l'ensemble Tarentule qui interprète ici Negando il Moy Signor, un madrigal extrait des Larmes de Saint-Pierre de Roland de Lassus. Negando il Moy Signor, extrait du recueil de Madrigaux Les Larmes de Saint-Pierre de Roland de Lassus, interprété par l'ensemble Tarentule. Et c'est l'ensemble qui va donc créer La Belle Folie de Denis Boss ce jeudi 14 décembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, lors du concert de clôture du festival Déoda de Sévrac 2023. Il y a un autre concert le 14 décembre à 20h dans un genre et un répertoire totalement différent. Ce concert a lieu au centre de congrès d'exposition Diagora à la Bège et il est donné par le Quatuor Illica qui est formé par des musiciens de l'Orchestre du Capitole, Serge.
Mais oui, avec des musiciens que l'on connaît bien, avec Christy Liesi comme violon, également Edwige Farinck, deuxième violon, Juliette Gilles, alto, et Pierre Gilles, violoncelle. C'est vraiment un quatuor familial, presque. Hein.
Oui, donc, on peut dire ça.
Ah oui, oui. Avec un programme, alors un beau programme d'œuvres conséquentes, puisqu'il y a d'une part le quatuor à cordes numéro 1 de Tchaïkovski, et puis l'unique quatuor à cordes merveilleux de Maurice Ravel. Donc, un beau programme pour cette soirée.
Tout naturellement intitulé Paris-Saint-Pétersbourg.
Exactement, ben oui, puisque les deux compositeurs sont issus de ces...
De ces deux grandes villes, alors pour avoir un petit aperçu du programme de ce concert, on va écouter le premier mouvement, fameux premier mouvement, Allegro moderato du quatuor à cordes de Maurice Ravel.
Ben oui. Thank you.
le premier mouvement Allegro Moderato du Quatuor à cordes de Maurice Ravel, une des deux œuvres au programme du concert que donne le Quatuor Elika jeudi 14 décembre à 20h. C'est au centre de congrès et d'exposition Diagora à la Bège et les musiciens de l'orchestre du Capitole sont encore sur le pont ou plutôt sur le plateau de la Halle aux Grains samedi 16 décembre à 18h pour un concert du cycle Happy Hour sous-titré Happy Hour de Noël avec les cuivres, Serge.
Oui, exactement. Donc, il y a les pupitres de cuivre de l'Orchestre National du Capitole, dirigé cette fois par Florent Didier, et puis également la maîtrise de Toulouse, la maîtrise du conservatoire dont s'occupe Marc Hopstadt, un ensemble magnifique hein, dont il faut redire la qualité exceptionnelle.
Ça a amené à un niveau exceptionnel,
formidable,
reconnu d'ailleurs dans toute la France.
Ah ben, et au-delà, puisque bon, Marc Hopstadt, britannique évidemment, il est du pays des maîtrises hein, voilà. En quelque sorte. Donc c'est parfait, avec des chants de Noël. Alors, un répertoire apparemment très varié, puisque répertoire classique, du jazz, de la musique de film. Il y aura des extraits du Casse-Noisette. Il y aura un Alléluia du Messie aussi, on nous promet. Donc voilà, avec une chanteuse de jazz, Tatiana Gronti, donc, qui participera.
Oui, qui est à Toulouse d'ailleurs, qui vit à Toulouse, Tatiana Gronti.
Qui participera à cette happy hour de Noël avec les cuivres.
Et toutes ces musiques sont arrangées, puisqu'évidemment, elles n'ont pas été composées directement pour un orchestre de cuivre, pour un orchestre d'harmonie. Elles sont arrangées par Nicolas Châtenay, qui est le trompettiste de l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Voilà, qui fait beaucoup d'arrangements pour orchestre de cuivre, et souvent remarquables. Bon, donc, vous l'avez dit, il y aura entre autres Casse-Noisette. Si vous vous demandez à quoi peut ressembler Casse-Noisette en version orchestre d'harmonie, orchestre de cuivre, je vous propose une version qui n'est pas celle de Nicolas Châtenay, mais qui devrait vous donner tout de même une idée. Thank you. Vous aurez sans doute reconnu la danse de la fée dragée suivie de la valse des fleurs de Casse-Noisette en version orchestre d'harmonie. Voilà une des œuvres que l'on devrait entendre lors du concert Happy Hour de Noël avec les cuivres que donnent les musiciens de l'orchestre du Capitole, dirigé par Florent Didier, et les chanteurs de la maîtrise de Toulouse. Il y a donc également la chanteuse Tatiana Gontry. C'est ce samedi 16 décembre à 18h. Deux jours avant, jeudi 14 décembre également à 20h, le quatuor Elika est en concert au centre de congrès d'exposition Diagora à la Bège. Il y a deux œuvres au programme, le quatuor à cordes numéro 1 de Tchaïkovski et le quatuor à cordes en fa majeur de Ravel. Pour ces deux concerts, les réservations et l'achat des places sont à faire en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Je rappelle enfin que le dernier concert du festival Déodat Sévrac 2023 a lieu aussi le jeudi 14 décembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il est donné par l'ensemble Tarentule qui va créer La Belle Folie, une pièce en 6 tableaux composée par Denis Boss et qui célèbre l'amour tel que l'ont inventé les troubadours au XIIe siècle. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.festival-deodat-2-sévrac.fr. Tous mes remerciements enfin à Serge Chausier et Jean-Jacques Cuben d'avoir participé à cette émission et à Christophe Aubry de l'avoir réalisé. Podcast disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous de nous écouter fidèlement chaque mardi et mercredi. Je vous souhaite une très bonne semaine musicale.